Soyez les bienvenus, le journal Sébastien Logénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La une ce matin, ce plastique qui n'est pas fantastique. 300 millions de tonnes produits chaque année dans le monde. Un plastique qui contamine toute la planète. Une crise environnementale que dénonce ce matin un rapport inquiétant de l'ONG WWF. À suivre également le soutien de Jean-Pierre Raffarin à Emmanuel Macron dans sa campagne européenne. C'est l'info de la nuit, la très probable libération sous caution de Carlos Ghosn. Peut-être des indemnités pour les milliers de victimes de la nouvelle version du Levothyrox, jugement rendu aujourd'hui. Et puis, pour terminer, un opéra de Richard Strauss aux allures de cabaret, c'est à voir à Toulouse.
La journaliste spécialiste de la question de l'égalité homme-femme, Jessica Bennett, elle est la première gender editor du New York Times et elle est l'invitée d'Alexandra Ben Saïd dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Il y en a partout, Sébastien, sur les plages, dans les océans et même au fond des abysses.
Oui, le plastique a envahi la planète, constat alarmant lancé ce matin par un rapport du WWF. L'ONG lance un appel à tous les gouvernements, les industriels, les consommateurs afin de ralentir la production de ce polluant. Il faut dire que nous avons produit plus de plastique depuis l'an 2000 que pendant tous les siècles précédents et que près de 40% des déchets plastiques sont très mal recyclés. Sandy Dauphin.
Aujourd'hui dans le monde, un plastique sur quatre qui est produit termine comme déchet dans la nature. D'après ce rapport du WWF, Ludovic Frère-Escoffier, responsable du programme Vie des océans pour l'ONG.
Si rien n'est fait, d'ici 2030, dans 12 ans, il y aura deux fois plus de plastique dans l'océan.
Le WWF réclame un traité international contraignant pour interdire par exemple progressivement le plastique à usage unique comme les sacs ou les gobelets et encourager les entreprises à utiliser plus de matières recyclées pour fabriquer leurs emballages plastiques.
Il faut inciter les entreprises à intégrer plus de plastique recyclé dans leurs produits. Et pour cela, il faudrait que le plastique recyclé soit à un coût abordable par rapport au plastique non recyclé. Donc mettre un système de bonus, plus un produit mis sur le marché a du plastique recyclé, moins il coûte cher. Et plus un produit a du plastique non recyclé, plus il coûte cher.
Le WWF parle d'une crise du plastique qui pourrait devenir incontrôlable. D'ici 2030, la production de plastique pourrait encore augmenter de 40%.
Sandy Dauphin, spécialiste environnement à France Inter.
Il est 7h33, on le disait dans les titres, Carlos Ghosn peut être libéré sous caution.
L'information est tombée cette nuit, la justice japonaise a donc accepté la troisième demande de libération de l'ancien patron de Renault, mais à certaines conditions, interdiction de sortir du Japon, placement sous vidéosurveillance à son domicile et une caution fixée à 8 millions d'euros. Carlos Ghosn pourrait quitter dès cet après-midi le centre de détention de Kosugi, mais le parquet de Tokyo, on vient de l'apprendre, vient de faire appel. Emmanuel Macron prend la plume pour tenter de relancer le projet européen. À 3 mois des élections, le chef de l'État passe à l'offensive dans une tribune publiée ce matin dans les journaux des 28 pays de l'Union européenne, The Guardian, Die Welt, El País ou encore le Corriere della Sera. Remise à plat de l'espace Schengen, mise en place d'un salaire minimum européen, interdiction du financement des partis politiques européens par des puissances étrangères. Pas ou peu de réactions pour le moment au niveau européen, mais déjà un soutien de taille en France, celui d'un ancien Premier ministre, ministre de Sarkozy. Jean-Pierre Raffarin va soutenir le projet d'Emmanuel Macron aux élections européennes. Il le dit dans le Figaro ce matin, un choix que déplore Philippe Juvin, eurodéputé Les Républicains.
C'est triste pour notre famille politique qui doit probablement aussi s'interroger parce que les sensibilités différentes on fait la richesse de l'UMP à l'époque, la Républicain aujourd'hui, et clairement la disparition peu à peu d'un certain nombre de sensibilités politiques au sein des Républicains va nous poser problème et nous appauvrir. Aujourd'hui, c'est vrai, nous risquons, et c'est ça le risque qui guette la droite française, c'est de devenir un parti miniature purement fait conservateur. Notre famille a été diverse, il n'y a aucune raison qu'elle devienne uniforme. Vous savez, le philosophe Alain disait « quand 10 personnes qui pensent la même chose se réunissent, elles ne pensent plus ». Eh bien, les Républicains, quand ça fonctionnait, Il y avait 10 personnes et toutes ne pensaient pas la même chose. Ça faisait la richesse.
L'eurodéputé Philippe Juvin, interrogé par Camille Revel. C'est un anniversaire pas très festif en apparence, mais c'est l'occasion de célébrer une institution qui a changé la vie des consommateurs. On va fêter aujourd'hui les 10 ans de l'autorité de la concurrence, qui n'a pas hésité ces dernières années à infliger de lourdes amendes pour lutter contre les monopoles. Cet après-midi, discours du Premier ministre, très attendu par les associations sur une question sensible, les syndics de copropriété. Le gouvernement s'apprête en effet à plus sanctionner ceux qui ne joueraient pas le jeu de la concurrence. Quand les SDF, les migrants ou les plus pauvres, tout simplement, se font entendre. Eux aussi ont pris part au grand débat lancé par l'Élysée et contre toute attente, les associations qui les soutiennent ont dû pousser les murs pour accueillir leur parole, la parole des plus démunis. Delphine Evenou.
Sans abri, sans emploi, sans papier, mais pas sans avis sur la société. 3000 personnes ont participé aux 150 réunions organisées par le Secours catholique, venues chercher leur place au milieu du mouvement des Gilets jaunes. Véronique Fayet, présidente de l'association.
Beaucoup de personnes très pauvres se reconnaissent dans la révolte des Gilets jaunes. D'autres nous ont dit aussi, c'est pas nous. Nous, on est encore plus pauvres. Et le danger, ça serait qu'on soit complètement oubliés. Le danger existe, puisqu'en mois de décembre, le président de la République a proposé des mesures pour ceux qui travaillent et pas un centime d'augmentation pour ceux qui ont les minima sociaux.
Besoin de se faire entendre, de s'affranchir aussi. C'est ce que retient Bruno Morel d'Emmaüs Solidarité après un débat avec 400 participants la semaine dernière.
Les gens souhaitaient qu'on leur retire cette image de personnes qui profitent d'un système. Non. Elles veulent qu'on les aide à trouver un emploi, un logement et être comme n'importe quel citoyen.
Simplifier l'administration, autoriser les sans-papiers à travailler, favoriser le microcrédit. Les idées sont nombreuses et l'exercice est salutaire pour tout le monde. S'enthousiasme Jean-François Crisagnac, ancien SDF, organisateur du débat du SAMU social de Paris.
Des choses ont été dites qui interpellaient directement le SAMU social et ça va amener le SAMU social à devoir réfléchir aussi comment améliorer la vie des personnes accueillies en son sein.
Les associations espèrent que le contexte social leur permettra, cette fois, d'être écoutées.
Le grand débat entre dans sa dernière ligne droite. Il sera clos dans 10 jours, le 15 mars prochain.
Il est 7h30. Ils estiment avoir été les cobayes des laboratoires Merck et demandent à être indemnisés.
Oui, les cobayes de la nouvelle version du Lévothyrox. Ils sont plus de 4000 malades de la thyroïde à avoir porté plainte au civil. Le procès hors norme a déjà eu lieu en décembre dernier à Lyon et le tribunal doit rendre aujourd'hui son jugement. Mathilde Lemaire.
Les patients utilisateurs de Lévothyrox ont-ils été assez informés quand en 2017, le laboratoire Merck a modifié la formule de leur médicament? C'est la question à laquelle doivent répondre les juges. Pendant les mois qui ont suivi la mise sur le marché de ce nouveau cachet, des dizaines de milliers de personnes ont souffert d'effets indésirables, grosses fatigues, douleurs, vertiges, dépressions parfois graves. Un demi-million de malades se sont détournés de ce Lévothyrox cherchant des alternatives jusqu'à l'étranger. La justice pénale a été saisie, une information judiciaire ouverte pour tromperie, blessures involontaires. Elle a même été élargie récemment au fait d'homicide involontaire. Mais en parallèle, plus de 4000 patients demandent aussi réparation au civil, 10 000 euros chacun au titre du préjudice d'angoisse et du défaut d'information. Ils disent n'avoir pas été prévenus du changement de formule, avoir mis du temps même avec leur docteur ensuite pour comprendre que c'était l'origine de leurs maux. Leurs avocats accusent Merck d'avoir su en amont le risque de conséquences néfastes pour les patients mais d'en avoir fait peu de cas pour privilégier les intérêts financiers. Le laboratoire réplique qu'il a envoyé des milliers de mails aux pharmaciens, médecins, qu'il a respecté toutes les procédures validées par l'agence du médicament.
Mathilde Lemaire. Le Charles de Gaulle reprend la mer. Après 18 mois de travaux et 5 mois d'essais en mer, le porte-avions français va repartir en mission. Il quitte aujourd'hui le port de Toulon pour traverser la Méditerranée avant de rejoindre les océans Indien et Pacifique. À l'étranger, justement, la dernière poche de résistance de l'État islamique n'en finit plus de se vider. La ville de Baghouz en Syrie a vu hier encore près de 3000 personnes quitter ce dernier bastion de Daesh, parmi eux 200 djihadistes qui se sont rendus, mais aussi beaucoup d'enfants, des enfants de djihadistes, mais également des esclaves de l'État islamique qui vivaient depuis des années sous la férule de leur maître. Notre envoyé spécial en Irak, Mathieu Mondoloni, a pu recueillir le témoignage de l'un d'entre eux. Son reportage.
Il s'appelle Kinan, il a 10 ans. Il a été libéré il y a une semaine, après 5 années passées à servir un djihadiste syrien du nom de Abu Saad. Son histoire, elle commence en 2014, quand il est fait prisonnier par Daesh. Beaucoup de morts, des gens massacrés par les combattants de l'État islamique, dit-il. Il nous frappait, beaucoup. Il marque une pause, puis il lâche. Ils ont exécuté mon père, sans raison. Kinan a les yeux dans le vide. Il raconte qu'ils étaient enfermés dans une école avec sa famille. Eux sont achetés par Abu Saad, qui les emmène dans la région de Baghouz, dans le califat de l'État islamique. C'est là-bas que ma mère est morte. Quand la région de Baghouz est assiégée par les forces démocratiques syriennes, le djihadiste décide de fuir pour Idlib, la dernière poche de l'État islamique après Baghouz. C'est là que mon oncle m'a retrouvé. Il a payé 30 000 dollars à Abu Saad pour me récupérer. 5 jours de route plus tard, il est au Kurdistan irakien. La liberté, enfin. Le téléphone de son oncle sonne. Un message, c'est une vidéo dans laquelle on voit un autre petit garçon de 9 ans cette fois. Il porte l'uniforme noir de l'État islamique. Il dit que son père a été tué par les djihadistes de Daesh et sa mère par une frappe aérienne. Il vient de fuir le califat. Il est en sécurité, libre. À la frontière irako-syrienne, Eric Audra, Mathieu Mondoloni, France Inter.
En bref, encore à l'étranger, Alger, nouvelle journée de manifestation. Hier, les magasins étaient ouverts, mais les étudiants, eux, ont déserté les cours à l'université de Babezouar, la plus grande du pays, pour protester encore contre la 5e candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Aux États-Unis, Hillary Clinton, candidate battue par Donald Trump, a exclu pour la première fois de se représenter à la présidentielle américaine de 2020.
Et on termine, Sébastien, avec un opéra de Strauss dépoussiéré façon bande dessinée.
Une mise en scène d'Ariane à Naxos que l'on doit au très fougueux Michel Faux. L'acteur et metteur en scène revisite l'œuvre de Richard Strauss avec son excentricité légendaire. Stéphane Capron.
Ariane Anaxos se prête facilement au facétie, car on y parle des coulisses de la préparation d'un opéra auquel on adjoint un prologue théâtral. La mise en scène de Michel Faux est carnavalesque. Il transforme quasiment l'œuvre en cabaret avec des décors et des costumes aux couleurs saturées. Et tout cela colle parfaitement avec la partition de Richard Strauss.
La musique est survoltée, hystérique, extrêmement raffinée. Puis il était très admiratif de Couperin. Il y a beaucoup de références avec Mozart aussi. Wagner aussi, qui l'a beaucoup influencé. Et en même temps, c'est une musique extrêmement moderne, extrêmement contemporaine. Et donc j'ai l'impression de faire des montagnes russes, quoi. Si on les suit, ça va très très loin, quoi. On est entre Fellini et Tim Burton, parce qu'il y a, comme chez Fellini, il y a ce mélange de tragédie, de grotesque, de raffinement et puis aussi de sensualité débordante. C'est tout ce que j'attends d'une œuvre d'art.
La direction du jeune chef américain Evan Rogister est endiablée. Un très grand trio porte vocalement cette production. Elisabeth Sutphen dans le rôle de Zerbinetta, Annick Morel dans celui du compositeur et Catherine Hunold dans le rôle titre d'Ariane, la soprano française considérée aujourd'hui comme l'héritière de la grande Régine Crespin, n'usurpe pas sa réputation.
Ariane Anaxos de Richard Strauss dans la mise en scène de Michel Faux, c'est jusqu'au 10 mars au Théâtre du Capitole à Toulouse.
Merci Sébastien Logénie. Et deuxième point route, Victoria Coussa, toujours très compliqué, Victoria, de rejoindre Marseille ce matin.
Oui, notamment après un accident à Saint-Victoré dans les Bouches-du-Rhône qui perturbe la circulation sur l'autoroute A7. Il faut 2 heures de plus que d'habitude pour parcourir 15 km à partir de Rognac. C'est compliqué aussi sur l'A51 après une collision au niveau de Bouc-Bel-Air. Là, vous mettez 50 minutes de plus que prévu direction Marseille. Et il y a un bouchon à l'est à partir d'Aubagne sur l'A50. Ailleurs, il y a beaucoup de monde aux portes des grandes villes comme Paris, Lyon et Bordeaux, où il y a un bouchon de 10 km sur la 10 des Saint-Vincent-de-Paul.